Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 janvier 2024 en direct de 19h à 20h. Et vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain jeudi 18 janvier de 9h à 10h ainsi qu'en podcast sur Spotify en cherchant Forêt des Possibles et sur radiogalère.fr dans la rubrique Ecoforum. Chers auditeurs et chères auditrices, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, probablement que comme nous, vous posez plein de questions. La planète va mal, la société est sous tension, et puis nous avons aussi nos questions du quotidien. Notre famille, notre santé, notre logement, notre travail. Et alors comment concilier tout cela? Comment trouver sa juste place dans un monde aussi incertain? Et que faire quand tout nous dépasse? Prenez le temps de vous poser. La Forêt des Possibles donne la parole aux acteurs et aux actrices qui pensent et font les transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région. Eux aussi se sont posés plein de questions. Leur parcours ressemble d'ailleurs probablement au vôtre. Ils et elles se sont engagés. Ils et elles ont créé leur projet. Ils répondent à des problématiques du territoire. Et surtout, leurs projets se complètent les uns avec les autres. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne des fruits et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. L'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. Et en tout cas, nos invités témoignent semaine après semaine que c'est possible. Je suis Gilliane, accompagné de Claire en studio et de Marin en régie. Et pour parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Gwenaël Carvajan. Bonsoir.
Bonsoir. Merci de cette invitation.
Avec plaisir. Alors Gwenaël, aujourd'hui nous allons parler de l'économie de la fonctionnalité, mais avant de parler de ce sujet fort intéressant et que peut-être tout le monde ne connaît pas, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à t'engager?
Oui, alors parcours, j'ai commencé comme beaucoup de monde après une école de commerce à faire un métier de conseil, et puis donc ça, on apprend beaucoup de choses, notamment à faire du conseil. Et puis je me suis retrouvé il y a maintenant une vingtaine d'années à quitter Paris pour arriver dans la région et après un petit passage dans l'industrie. C'était le moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on commençait enfin à parler de développement durable. Il y avait la loi NRE qui obligeait les grands groupes à publier leurs premiers rapports. Donc c'était le moment de l'émergence des premiers cabinets de conseil spécialisés dans le développement durable et la RSE.
Moi, je pense que j'étais trop jeune pour m'en souvenir.
C'est là que j'ai plongé dans le bain et que donc j'ai monté un premier cabinet dédié. Et puis depuis, ça fait partie des sujets. Quand vous rentrez dedans, quand vous, petit à petit, par cette activité professionnelle, vous prenez conscience de tout ce qui ne va pas et que collectivement, on est quand même en train d'aller un peu dans le mur, c'est difficile de revenir en arrière. Je fais partie de ces gens qui, depuis 20 ans, du coup, ont la chance de se lever le matin sans se poser la question de savoir à quoi sert la vie, à quoi sert sa vie, quel est le sens de tout ça. Au moins, je sais pourquoi je me lève. C'est pour essayer de, à mon humble niveau, faire en sorte que collectivement, on évite d'aller dans le mur. J'espère que de mon vivant, je verrai qu'on a évité ça. Mon sujet, c'est d'y apporter une pierre la plus significative possible. Alors ça a pris, sur ces 20 ans, des formes tout à fait variées, donc consultant, formateur. J'ai eu un engagement associatif, j'ai eu des engagements politiques, depuis une dizaine d'années, je suis revenu vraiment sur les sujets économiques avec à la fois de l'accompagnement des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises qui sont sur ces sujets de transition écologique solidaire, d'économie circulaire, pour essayer de les aider à avancer, à trouver leur modèle économique, à trouver des financements. Et puis il m'arrive aussi soit d'avoir des idées qui peuvent aboutir à la création de sociétés, soit de participer et de finalement prendre aussi une part active aux projets que j'accompagne. Voilà, donc plusieurs casquettes qui vont tous dans ce sens de la transition écologique et solidaire.
Et non, même énormément de casquettes différentes. Et alors, on parlait avant l'émission de radio d'économie de la fonctionnalité, d'économie circulaire. Parce que c'est ce qui relie un petit peu tous les projets pour lesquels tu t'investis, dans lesquels tu travailles. Est-ce qu'on pourrait commencer l'émission en expliquant ce que c'est aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément?
Alors on peut volontiers faire ça, parce que c'est vrai que c'est un modèle qui est très très vertueux et qui mérite d'être connu et qui est assez peu connu. Notamment parce que ce terme économie de la fonctionnalité, franchement, il n'est pas terrible. Ça fait pas mal de temps qu'on se creuse la tête pour essayer de trouver un mot qui soit un peu plus porteur et on n'y arrive pas, on ne trouve pas. En fait, l'économie de la fonctionnalité, on en a eu quelques exemples qui ont marqué les premiers qui se sont intéressés à la question. C'est le coup de Michelin qui ne vend pas des pneus, mais qui vend des kilomètres de pneus. Bon, en fait, ça consiste à dire qu'on remplace la vente d'un produit par la commercialisation de sa performance d'usage. Donc, ce n'est pas du leasing. Quand vous faites du leasing, vous vendez du temps. Là, il ne s'agit même pas de dire on remplace la vente d'une ampoule par la vente de la lumière. C'est la bonne lumière au bon moment. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment le résultat et pas le moyen. Et c'est pour ça que ça rentre dans le cadre de l'économie circulaire, parce que tout le monde, quand on est dans l'économie de la fonctionnalité, tout le monde a intérêt à faire en sorte qu'il y ait le moins de ressources possibles qui soient dépensées, le moins de déchets qui soient produits, pour le résultat le plus qualitatif possible. Hein, donc on découple bien la création de valeur de la consommation de ressources et de la génération de déchets. Ça, c'est la première grande principe de l'économie de la fonctionnalité. Le deuxième, évidemment, c'est qu'on remplace la vente d'usage par une vente de service. Et le troisième, c'est que pour faire tout ça, en général, vous ne faites pas tout seul. Ça, c'est d'ailleurs tous les projets d'économie circulaire, en général, c'est comme ça. Ça nécessite de la coopération, à la fois avec le client, à la fois avec les fournisseurs, avec tous ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur, au final. Et donc, ça peut mettre en place aussi des logiques sur un territoire qui sont très, très, très intéressantes, parce qu'on se pose la question un petit peu différemment de la santé, de l'alimentation, parce qu'on n'est plus à regarder des flux économiques d'acteurs isolés les uns à côté des autres, mais de regarder à quoi ça aboutit au final et quel est le résultat sur le territoire. Donc l'économie de la fonctionnalité, c'est tout ça. Pour le rendre un petit peu plus concret et pour dépasser l'exemple des pneus Michelin, un des beaux projets en la matière qu'il y a eu dans la région il y a quelques temps, c'est un type qui vendait des emballages isothermes pour envoyer des médicaments à l'autre bout de la planète. Donc il est très très embêté parce que forcément le coût de la matière était de plus en plus élevé, c'était assez concurrentiel, était sur un marché qui n'était pas facile. Il a commencé à se demander s'il pouvait récupérer cette matière pour la réutiliser, pour la recycler. Et au final, il a basculé dans un projet où, avec l'économie de la fonctionnalité, il a arrêté de vendre des emballages, mais il a vendu le respect de la chaîne du froid. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au final, plutôt qu'un truc qui n'avait pas beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée, il a rajouté du service, de l'intelligence avec des capteurs qui mesuraient en temps réel la température des produits qu'il était en train d'expédier, relié au système météo, ce qui fait que quand le bateau qui expédiait tout ça était bloqué dans le port, ben on savait si le colis était dans de bonnes situations de température ou pas. Et donc, en faisant tout ça, on comprend bien que le niveau de valeur ajoutée qu'il offre à ses clients est complètement différent, complètement supérieur. Et ça peut être une vraie réussite économique, dans le même temps où, ben forcément, en restant propriétaire de son emballage, ben c'est à lui de faire en sorte de le récupérer à la fin.
Ouais, ça me fait un petit peu penser au système de la consigne, quelque part. Et alors, pour être sûr que j'ai... Il doit y avoir des différences, mais pour être sûr que j'ai bien compris, si on prend l'exemple de vélo. Quelqu'un a besoin d'un vélo, au lieu d'acheter son vélo et de devenir propriétaire et de l'utiliser une partie du temps, mais la majeure partie du temps il n'est pas utilisé, il est stocké dans une cave, on peut ponctuellement louer un vélo. Et donc ça, on n'est pas encore dans l'économie de la fonctionnalité, c'est juste de la location pour l'instant. Par contre, l'économie de la fonctionnalité, ce serait au moment où j'ai besoin d'un vélo, et peut-être comme les vélos dans libre-service, je peux louer un vélo, mais en plus, quand je ne l'utilise pas, il est maintenu, il est réparé, et il y a quelqu'un qui s'occupe de maintenir la durée de vie du produit, du vélo pendant longtemps.
Ça peut être ça, mais ça devrait aller plus loin, dans le sens où finalement, vous n'avez pas besoin d'un vélo, vous avez besoin de vous déplacer. Et si on voulait réfléchir sur une offre en économie de la fonctionnalité pour les questions de mobilité, on se contenterait pas du vélo, mais on irait chercher l'ensemble des outils possibles pour faire en sorte que la fonctionnalité, le résultat qui est je me déplace dans les meilleures conditions possibles, et pourquoi pas en générant effectivement un plus sur la santé, c'est mieux d'avoir des mobilités actives, et bien que tout ça soit activé et pas juste simplement l'outil vélo. Faut justement dépasser le support, dépasser l'équipement matériel pour arriver à se concentrer sur à quoi ça sert en fait. Cette question d'à quoi ça sert et qu'est-ce qui crée de la valeur, c'est vraiment ça qui est central dans beaucoup de réflexions qu'il faut qu'on ait. Il faut qu'on arrête de vouloir chercher courir après des indicateurs qui ne sont pas les bons, qui ne sont pas ceux qui nous rendent heureux ou en bonne santé, quoi. Donc, à quoi ça sert ?
Et donc, j'en déduis que toi, dans ton activité de conseil, tu vas accompagner les entreprises à gagner en efficacité, en productivité grâce à leur offre de services ou de biens. Et en parallèle de ça, travailler vraiment sur le besoin utilisateur pour avoir quelque chose qui est le plus efficace aussi. Tu travailles sur ces deux paramètres-là à la fois ?
C'est ça, c'est ça. Ces deux paramètres, c'est vrai que... Mon boulot, quand j'accompagne des gens qui réfléchissent à un modèle en économie de la fonctionnalité, c'est évidemment d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vont vendre et comment. Il y a quand même toute une question de définition de l'offre. Et ça passe beaucoup par pousser les murs en disant mais allons plus loin, c'est quoi l'impact positif ou l'impact négatif que tu as ? Est-ce que ça, on ne peut pas le valoriser ? Est-ce que ça, tu ne peux pas l'améliorer encore ? Donc on essaie vraiment d'aller chercher l'impact pour essayer de finalement que l'impact soit le cœur de ce qu'on vend et pas simplement un objet. Et si on arrive à définir qu'on vend un impact, ben là forcément tout le monde sera content.
Oui, j'ai aussi l'impression que c'est un sujet dont les collectivités, le secteur public doit prendre possession. Si on reprend l'exemple de la mobilité, ça ne peut pas être fait seulement à l'échelle d'entreprises privées, mais d'une politique publique. Notamment.
Ouais. Alors et là, c'est justement tout le C de économie de la fonctionnalité et de la coopération. Cette coopération qui à l'échelle territoriale est effectivement nécessaire parce que comme tu l'as dit sur la mobilité, on voit bien la limite. C'est pas un acteur privé tout seul qui peut. Alors il y a certains cas de figure où c'est tout à fait possible, mais d'autres cas de figure quand on est sur des fonctions, des fonctionnalités assez larges, assez citoyennes sur l'alimentation, réfléchir évidemment ça se fait pas tout seul, donc évidemment la collectivité locale doit jouer son rôle soit en impulsant, soit en animant, soit aussi en achetant. C'est vrai que le rôle d'acheteur public il est important, et ma foi, l'achat public et économie de la fonctionnalité, ça c'est un vrai sujet qui est pas facile, mais ça fait pas mal de temps que des gens y réfléchissent. Oui.
Et tu penses qu'il est possible pour une entreprise de se convertir, ou en tout cas de devenir une entreprise à proprement parler de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ou il faut que ce soit de nouvelles entreprises qui prennent à bras-le-corps le sujet, parce que c'est très difficile de changer de modèle économique, de changer de manière de gagner de l'argent quand on vend des produits ou un usage ?
Il y a les deux. Je pense pas que ce soit exclusif de l'un ou de l'autre. Certains basculent, changent de modèle. On a pas mal d'exemples un peu partout en France de boîtes qui ont changé de modèle et qui s'en portent très très bien. Et certaines partent directement sur ce modèle-là. Après, il faut quand même garder en tête que c'est une innovation dans le sens où les clients, les fournisseurs, enfin toutes les parties prenantes vont pas forcément tout comprendre tout de suite et vont peut-être se méfier, Donc si vous êtes sur un produit nouveau, que vous avez le modèle de commercialisation qui est nouveau, ça peut faire beaucoup pour une création de boîte. Oui. Donc c'est pas forcément évident. Alors pour convaincre des financiers que votre projet est bon, mais qu'en plus vous allez faire un modèle un peu bizarre comme ça, qu'il n'a encore jamais vu et qui ne rentre pas dans les cases de son prescoring, notre ami banquier, c'est compliqué.
Et peut-être aussi sous une forme coopérative, une forme juridique coopérative en plus de ça.
En plus de ça, oui.
Et tu as des exemples en tête ou pas spécialement qui te reviennent là ?
Des exemples du coup de...
d'entreprises qui... Alors, hormis sur les transports de matières isothermes pour...
Alors, un des exemples que je peux peut-être donner en lien avec un sujet d'actualité pour moi aujourd'hui, avec WeRussi, qui est une start-up marseillaise à laquelle je me suis associé, qui construit un projet qui s'appelle Relion Factory, qui vise à reconditionner des batteries lithium. Là, le point de départ, c'est un peu le même, hein, c'est de se dire, tendanciellement, on va pas pouvoir continuer comme ça avec ces histoires de batteries lithium. Il se trouve, le saviez-vous, que même dans une Zoé, ou dans tous les vélos, dans toutes les trottinettes, les batteries lithium, c'est constitué de cellules, c'est un peu comme des piles finalement, hein, qui ont la taille d'un stick de rouge à lèvres. Et c'est à peu près toutes les mêmes. Et voilà, donc c'est assez normalisé. Et quand vous avez un vélo et une trottinette qui avance plus, on dit qu'il faut jeter la batterie parce qu'elle ne va pas. En fait, c'est que vous demandez à votre batterie une intensité une puissance en sortie qui est complètement folle. Et donc ça, elle n'y arrive plus. Par contre, si vous pouviez récupérer ces sticks de rouge à lèvres, là, ces piles à l'unité, et les mettre sur un autre usage moins intensif, à côté de panneaux solaires par exemple, ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'en gros, elles sont plus capables de faire un sprint, mais elles sont encore capables de faire un marathon. Donc plutôt que d'acheter du neuf en Chine, avec tous les impacts environnementaux et sociaux qu'on connaît sur toute la chaîne du lithium, pourquoi ne pas utiliser le gisement qui est chez nous avec ces batteries de la petite électromobilité. Donc on est en train, avec Sébastien Lenzi, le fondateur et l'initiateur du projet, de préparer une petite unité industrielle pour démanteler du coup ces packs de batteries et leur donner une seconde vie.
D'accord. Et le choix des mots est important et tu as utilisé le mot reconditionner, oui, pour parler de ces batteries lithium. Oui. Moi, de ce que tu me décris, je parlerais plutôt de revalorisation de ces batteries puisque l'usage n'est pas exactement le même in fine, puisqu'on ne le remet pas sur la trottinette ou sur le vélo. Est-ce que tu peux...
Oui, alors c'est vrai que il faut faire attention aux termes qu'on emploie et c'est pas toujours évident sur ces différents sujets d'économie circulaire. C'est globalement, déjà c'est pas du recyclage, c'est sûr, on touche pas du tout à la chimie. Effectivement, aujourd'hui on va prendre des batteries qui étaient destinées au broyage, puisque c'est comme ça que ça se fait, on récupère la matière, la biomasse, et c'est déjà pas mal. Sauf que une fois que c'est broyé, une fois qu'on a récupéré le lithium pour refaire une cellule de batterie, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Bon. Donc là, c'est effectivement de la revalorisation ou du reconditionnement. Ça va dépendre, techniquement, ça dépendrait peut-être de quel pack on refait avec. Mais c'est bien, l'idée, c'est bien de revenir à l'unité de la cellule, donc de la pile, quoi, du petit cylindre. Et en fonction de ce qui lui reste dans le ventre, on va dire qu'on va la vendre à l'unité pour aller sur une cigarette électronique, on va la vendre pour aller sur des packs d'antennes 5G ou pour aller sur des packs d'éclairage autonome.
Oui, c'est ça, la pile en tant que telle reste ce petit tube de stick à lèvres que tu parlais. D'accord.
Alors, pour revenir sur l'économie de la fonctionnalité, on voit bien là que c'est de la seconde vie. On va s'adresser à un marché client qui va peut-être se dire, oui, c'est vrai que c'est pas mal quand même cette histoire, plutôt que de prendre du neuf, en plus c'est moins cher, mais est-ce que je vais pas être embêté, est-ce que ça va durer assez longtemps, et puis qu'est-ce qui se passe si la cellule finalement le vieillit plus vite que... voilà. Et bien, quand vous passez en économie de la fonctionnalité, ça aide beaucoup les choses. C'est-à-dire que plutôt que de vendre le pack de batterie à la société, par exemple, qui va mettre des lampadaires autonomes dans les jardins publics de Marseille, vous dites, ben voilà, moi je vais te vendre la performance d'usage, c'est-à-dire que ton pack de batterie, il marchera tout le temps. Je vais le moniteur à distance, je vais mettre une petite puce 3G, comme ça je saurai si la batterie tient la route. Avant qu'elle casse, j'irai la changer. Et bien là, vous changez complètement de modèle et c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde.
Ça tire la qualité vers le haut parce que j'imagine que la personne qui fournit l'usage n'a pas intérêt à aller changer tous les 4 matins
exactement.
Mais alors, le produit.
Elle n'a pas intérêt à le changer. Et puis, dans toute la conception, évidemment, nous, on va avoir intérêt à faire en sorte que ça dure. C'est-à-dire que c'est l'opposé de l'obsolescence programmée, cette histoire-là. Quand vous restez propriétaire de votre équipement et que c'est vous qui allez le changer si ça ne va pas, vous faites en sorte, un, qu'il dure le plus longtemps possible, et que deux, pour le démonter, ce ne soit pas une usine à gaz. Que ce soit facile et pas cher de faire ces petites opérations de maintenance. Donc c'est de l'éco-conception que vous êtes amené à faire naturellement parce que c'est dans votre intérêt.
Et donc avec Wear ici, vous allez récupérer des gisements de batteries en lithium pour les revaloriser, reconditionner et ensuite les fournir à des professionnels qui ont besoin de batteries.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Et j'ai cru qu'il y avait j'ai cru entendre un jeu de mots dans Reliant Factory.
Reliant Factory, c'est le factory évidemment, c'est aussi pour faire un clin d'œil au Gigafactory qui qu'on va avoir sur le territoire, et puis Reliant pour Lion pour lithium-ion, et puis Re pour dire qu'on reconditionne.
Ouais, voilà. C'est ce qui me semblait. Alors je crois qu'il y a une question de Marin. Oui.
Oui. Dans les émissions de La Forêt des Possibles, ce qu'on aime bien, c'est pouvoir faire des liens entre les projets les uns avec les autres. Et il y a un projet qui me vient en tête qui s'appelle Amerma, porté par David Benaim, que peut-être que vous connaissez, qui a pour enjeu de pouvoir relocaliser des filières industrielles locales, low-tech. Je voulais savoir s'il y avait des discussions entre vous ou pas du tout.
Alors, malheureusement, je suis obligé de dire que ça fait pas partie des choses qui sont dans mon radar aujourd'hui, mais je suis preneur de la mise en lien, parce que un des partis pris qu'on a sur ce projet-là, et puis que j'essaie d'avoir à chaque fois, hein, c'est que finalement, au plus vous essayez d'avoir une démarche coopérative avec l'ensemble des acteurs, au plus le projet est solide. Et puis ça va aussi d'ailleurs jusqu'aux collectivités locales, ADEME, régions, qui sont quand même très très aidants sur ce type de projet-là. Donc oui, très preneur de toute mise en relation pour faire du 1 plus 1 égale 3. Ouais.
Et bien ça se fera à la sortie de cette émission et on est ravis d'y participer, de participer à fortifier cette communauté.
Ouais, Amerma, effectivement, qui est la mise en place d'une filière, de réindustrialisation low-tech en région PACA, qui est un projet très intéressant qu'on a reçu il y a à peu près un an, ici. Et alors, WERECY, donc c'est écrit W-E-R-E-C-Y, pour le premier projet en lien avec l'économie de la fonctionnalité dans lequel tu es impliqué. Tu travailles aussi sur d'autres projets qui sont en lien avec l'économie de la fonctionnalité, parmi tes multiples casquettes.
Voilà, il y a une... Une aventure qui commence à avoir quelques années maintenant, qui s'appelle FINEF, qui au départ était vraiment concentrée sur la question de l'économie de la fonctionnalité, plus précisément son financement. Parce qu'il faut bien se dire que quand, là, sur WERECY aussi, sur Reliant Factory, on va parler de piles, c'est pas très très cher. Mais quand l'équipement que vous mettez à la disposition de vos clients et que vous commercialisez sous forme de résultats, de services, plutôt que de le vendre, c'est-à-dire plutôt que de prendre votre marge de 50%, vous l'immobilisez, en termes de financement, si l'équipement est assez cher, unitairement, c'est assez lourd à porter. Ouais. Et là, on est dans un cas de figure où les banques commencent assez vite à être embêtées par le niveau de dette sur fonds propres que vous allez avoir, si vous allez les chercher pour financer ça par emprunt bancaire. Parce que c'est le réflexe, on ne va pas imaginer financer ça par fonds propres. Ce serait beaucoup trop lourd et beaucoup trop cher. Donc, en haut de bilan, les investisseurs disent « c'est pas mon métier ». Les banquiers disent « oula, ça va trop loin en matière de ratio d'endettement ». Alors, on pense assez vite au leasing, mais le leasing, finalement, c'est un peu le même problème. Ça marche très bien quand vous avez un copieur à acheter. Le copieur qui va prendre 1% de votre bilan, mais si ça fait 80% de votre bilan, votre société de leasing, elle ne va pas suivre non plus.
Est-ce que tu pourrais nous préciser le terme leasing, s'il te plaît ?
Alors, le leasing, c'est l'autre nom du crédit bail. Hein. C'est quand, plutôt que votre banquier ou un acteur financier classique vous prête de l'argent pour acheter quelque chose, finalement, il va l'acheter lui et vous le louer. Je la fais courte, mais c'est un petit peu ça. Donc, c'est pas dans votre bilan et vous payez un loyer plutôt que de payer des intérêts du remboursement du capital. Évidemment, dans ce cadre-là, le banquier, il est un peu plus rassuré parce que s'il y a une défaillance, juridiquement, votre copieur, il lui appartient. C'est pas forcément facile pour lui de le récupérer, d'aller le revendre, mais en tout cas, juridiquement, il lui appartient. Donc, c'est pour ça que les banquiers aiment bien ce mode de financement-là qui est moins risqué pour eux.
Et ça se fait beaucoup pour les voitures ces dernières années aussi.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en tant que particulier ou en tant que professionnel, vous faites un leasing pour une voiture, la voiture, elle ne vous appartient pas. C'est quelqu'un qui... Voilà, mais c'est pas le banquier ne vous a pas prêté de quoi acheter la voiture et avec ça, vous remboursez. Le banquier a acheté la voiture pour vous et vous la loue.
D'accord. Donc c'est pour ça qu'on peut un peu faire le parallèle avec l'économie de la fonctionnalité dans la mesure où on a l'usage mais pas l'objet en tant que tel.
Ouais. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde, quand on réfléchit au financement de l'économie de la fonctionnalité, tout le monde dit « mais t'as qu'à faire du leasing ». Non, mais ça ne marche pas non plus. Alors déjà, c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il y a trois personnes. Il y a vous en tant qu'opérateur d'économie de la fonctionnalité, il y a le financeur qui est propriétaire, puis il y a l'utilisateur. Enfin, vous êtes trois. Contractuellement, c'est un petit peu compliqué. Et puis le leasing, ça coûte très très cher. Il y a des boîtes spécialisées là-dedans. Les taux d'intérêt qui servent, au final, c'est très très cher. Donc il faudrait arriver à faire en sorte qu'il y ait des emprunts bancaires avec, du coup, une perception de ces projets-là, une analyse de ces projets-là par les partenaires bancaires qui ne soit pas la même que ceux qu'ils ont habituellement, qu'ils n'utilisent pas, en gros, les grilles de pré-analyse, de pré-scoring qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour savoir s'ils y vont ou s'ils n'y vont pas.
Et donc, ça implique un changement culturel pour...
C'est ça. Alors, ça implique un changement culturel, mais c'est potentiellement facilité parce que, sur ce sujet de l'économie de la fonctionnalité, il y a des spécificités qui font que vous pouvez imaginer une ingénierie financière, là, c'est un peu technique, mais vous pouvez imaginer faire un truc un peu sur mesure. Un peu innovant. Déjà, vous n'allez pas faire un crédit, vous allez faire un chapelet de crédit sur plusieurs années. Vous allez mettre en place des systèmes de garantie. Enfin, je ne vais pas trop entrer dans le détail parce que c'est un peu technique. Mais l'idée, c'est qu'on peut prendre le truc un petit peu différemment pour faire en sorte que le banquier soit capable de suivre plus facilement la demande de financement sur plusieurs années du déploiement d'une offre en économie de la fonctionnalité. En tout cas, ça, c'est le résultat d'une étude de faisabilité qu'on a conduite avec le soutien de l'ADEME et de la région il y a quelques années. Après, malheureusement, on a eu la crise Covid qui est arrivée. Et pour parler aux banquiers, à ce moment-là, c'était un petit peu compliqué. Ils étaient très, très pris par leur PGE. Mais voilà, on est toujours là-dessus, à essayer d'imaginer les outils qui permettent à cette économie de la fonctionnalité de se développer plus vite.
Et puisque tu mentionnes l'ADEME... L'ADEME a beaucoup de budget, mais d'aide à destination des entreprises sur tous les sujets d'économie circulaire. Est-ce qu'il y a, à ta connaissance, des aides spécifiques à l'économie de fonctionnalité ?
Oui, il y a un dispositif qui est, alors, qui est au niveau national et qui est repris du coup, dans les régions qui le souhaitent. Et pour nous, c'est bien repris. Il y a une ligne, si vous allez sur le site des aides de l'ADEME, agir, comment il s'appelle ? Je ne sais plus le nom de la plateforme de l'ADEME.
Je ne peux pas t'aider.
Bref, vous avez trouvé sur Internet, que vous, dans les mots-clés, vous tapez économie de la fonctionnalité, vous verrez qu'il y a un dispositif d'aide pour le soutien au projet d'études pour arriver à l'économie de la fonctionnalité.
Et est-ce qu'à travers FINEF, tu as réussi à trouver des solutions de financement pour des porteurs de projets dans un
Alors
cadre...
c'est pas évident du tout. J'avoue que c'est compliqué de demander, de trouver le bon interlocuteur déjà au sein des banques, hein, pour réfléchir à ça, parce que évidemment le premier réflexe c'est d'essayer d'être proche du terrain, proche du porteur de projet, mais du coup comme ça sort du cadre habituel, tout de suite on va essayer de s'assurer quand même qu'au niveau du siège à la banque on a le droit d'avancer. Donc voilà, après la crise Covid, on a eu un petit peu du mal à remonter sur le cheval, on va dire, dans les discussions avec les banques. Donc ça reste aujourd'hui malheureusement encore quelque chose qui est un petit peu théorique. On a des expérimentations qui sont en cours et j'espère que assez vite pouvoir revenir vous voir en disant ça y est, ça a fonctionné, on a les premiers financements qui sont arrivés. Mais voilà, ça a été un peu fastidieux de faire bouger ces lignes-là. Voilà.
On espère aussi.
Petite question, vous parlez des banques de façon assez indifférenciée. Est-ce que toutes les banques réagissent de la même façon ou est-ce qu'il y en a qui ont plus une culture tournée vers l'économie de la fonctionnalité ? On parle peut-être par exemple du crédit coopératif ou de banques qui peuvent être plus susceptibles d'être intéressées.
Évidemment, crédit coopératif, c'est forcément les premiers qu'on va voir quand on a ce type d'initiative à proposer, parce que l'écoute a priori est bonne. Ça ne veut pas dire qu'il y a une capacité de faire derrière, et il peut y avoir d'autres banques qui avancent aussi, hein, mais oui, toutes ne sont pas du tout au même niveau là-dessus, et forcément le crédit coopératif, la NEF... aussi, et forcément partie prenante, les banques mutualistes en général, et puis celles qui en tout cas annoncent s'engager, forcément elles ont une oreille beaucoup plus attentive que les autres, qu'on va pas forcément citer. Il faut citer un autre acteur aussi quand même par rapport à tout ça, qui est dans l'aventure depuis le début, à qui il faut rendre hommage, parce qu'il y a quand même un boulot formidable qui est fait, c'est France Active. France Active qui a été... un peu partenaire de FINEF dans le lancement et qu'il est encore. Parce que finalement, le métier de France Active, le métier historique de pour sa partie financement, qui consistait à dire aux banquiers, écoutez, je sais que vous ne comprenez pas bien les spécificités des besoins de financement et des modèles économiques du tissu associatif, hein, de l'économie sociale et solidaire en général. Donc faites-nous confiance, nous on va vous dire ce qui tient, ce qui ne tient pas, et on va catalyser autour de nous les financements bancaires pour ce sujet-là, bah c'est très exactement le rôle que FINEF voudrait avoir vis-à-vis de l'économie de la fonctionnalité. C'est l'aiguillon et le catalyseur des financements bancaires vers ces projets-là qui sont spécifiques, comme l'ESS est spécifique aussi.
Mais étant donné que c'est un changement culturel, ça prend du temps et ça
prend
du temps.
C'est ça, c'est ça. Et c'est, il faut tenir bon. C'est vrai qu'il y a des moments de découragement, mais je crois qu'on a tous partagé, hein, les moments... Où tout le monde dit c'est génial, puis à un moment, y a rien qui avance et on essaye de pousser les murs, de prendre le téléphone, mais c'est difficile. Et puis un jour, ça redémarre. Bon, c'est pas toujours facile de rester sur le cheval tout le temps, mais voilà, c'est notre le quotidien à tous, je crois.
Alors je vous propose, si vous le voulez bien, de faire une petite pause musicale. Et j'espère que vous, en première partie d'émission, vous avez réussi à comprendre ce qu'était l'économie de la fonctionnalité. Dans une deuxième partie, on parlera plus de financement de la transition écologique. Gwenaëlle étant assez chevronnée, j'ai l'impression, en financement. Mais d'abord, est-ce que tu veux nous parler de... Faut nous dire quelle musique tu as choisie pour la respiration musicale ?
Alors, pour la respiration musicale, je n'ai pas réfléchi par rapport au thème, mais j'avais juste envie de réentendre Private Investigations, juste pour la beauté musicale de ce morceau. Dire Straits,
ah bah c'est parti. Please.
Whiskey.
Et on espère que vous avez apprécié ce morceau de Dire Straits. On est de retour avec Gwenaël Carvajan, après avoir parlé de l'économie de la fonctionnalité, de ses projets, notamment Wirisi et Finef. Donc on a vu que c'était des solutions pour amorcer la transition écologique. Gwenaël, est-ce que d'après toi, il y a d'autres leviers à activer pour faire bouger les choses et faire que quand on se lève le matin, on ait vraiment envie d'y aller, quoi?
Oui, moi, y a un sujet que je trouve structurant et j'aimerais vraiment qu'on arrive collectivement en région, par exemple, à s'en emparer. Alors c'est pareil, hein, c'est comme l'économie de la fonctionnalité, c'est des termes barbares qui font fuir tout le monde, mais peut-être que ça parlera quand même, j'espère, à pas mal de nos auditeurs, c'est la question des externalités. Donc externalité, pour faire court, c'est j'ai un projet, je crée de la valeur, pas pour moi, pour les autres, hein, c'est-à-dire que c'est pas un truc que je vends, j'ai pas des sous qui vont rentrer en banque, mais ça crée de la valeur pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre va avoir des sous qui vont rentrer en banque ou il va dépenser moins. C'est un petit peu, si vous voulez, la logique du pollueur-payeur, hein, qu'on dit, il faut que le pollueur paye, d'accord. Quand on a une externalité positive, ce serait de dire qu'on peut avoir une logique du dépollueur payé, aller rechercher dans les projets ce qui va générer de la valeur pour les autres et du coup rémunérer ce projet-là, même si ça ne rentre pas directement dans ce qu'ils vont. Si on arrive à faire ça, ça revient un peu à décloisonner, hein. Je pense qu'on aurait un niveau d'efficacité macroéconomique, un niveau d'efficacité des politiques publiques qui est complètement dingue. Moi, c'est ce qui me fait hurler, franchement, c'est quand on voit, par exemple, un plan de déplacement, un plan de mobilité, on dit, on n'a pas beaucoup, beaucoup de budget complémentaire pour aller plus loin sur les transports en commun, les parkings relais, etc. C'est pour ça qu'on n'en fait pas plus. Et qu'on demande, oui, mais est-ce que vous avez regardé l'impact sur la pollution, donc la santé? Et est-ce que du coup, la caisse d'assurance maladie ne peut pas, d'une façon ou d'une autre, participer au financement de ces transports en commun qui vont diminuer son budget à elle? Ah ben non, ça, on ne sait pas faire. C'est débile. Le cloisonnement qu'on a entre les acteurs, entre les projets, nous fait prendre une série de d'arbitrages économiques qui ne sont pas les bons.
Moi, j'ai une question là-dedans. C'est la question du facteur humain dans tout ça. On parle beaucoup de la coopération, le fait de pouvoir avoir des externalités pour d'autres acteurs, d'autres structures. Par expérience, je sais que ce n'est pas si facile que ça, que de mettre tout le monde autour de la table et de dire, voilà, on va faire des projets communs et puis chacun va avoir un bout de ce gâteau-là. Quel est votre regard sur ça?
Je partage ça. Les projets coopératifs, c'est vraiment pas facile. Il y en a de super beaux sur le territoire. Les notions de coopétition, tout ça, il y a plein de gens qui essayent. C'est vrai que c'est pas facile et c'est pour ça que j'ai... En tout cas, la coopétition et la coopération en tant que telle, je ne compte pas que sur elle, à mon avis, pour faire en sorte qu'on accélère ce déploiement des solutions. Je milite plutôt pour que les règles du jeu fiscales et légales soient plus facilitantes. Notamment ces questions d'externalité par la fiscalité. Si on avait, par exemple, un taux de TVA qui est variable en fonction de l'impact environnemental et social de ce qu'on fait, de ce qu'on vend, ça aura un impact absolument énorme. Et ne pas avoir ce type de règles-là, ça revient finalement à demander aux acteurs de la transition sur le territoire de jouer au foot sur un terrain de rugby, quoi. À un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment changer ces règles-là. Moi, ça me fait hurler quand j'entends parler d'écologie punitive. Non, l'écologie punitive, c'est justement de demander à des gens de jouer au foot sur un terrain de rugby. C'est ça qui est punitif. C'est demander à des gens de ne pas prendre l'avion, certes, mais en continuant à avoir des pubs sans arrêt à la télé qui disent il n'y a pas de vacances heureuses si vous ne prenez pas l'avion. Donc oui, le facteur humain et la coopération, c'est important. Mais à un moment, il faut aussi que la structure, que les règles du jeu changent. Parce que sinon, c'est beaucoup demander des choses aux gens, quoi.
Ce matin, à la radio, j'entendais un auditeur qui disait « Mon empreinte carbone annuelle est de 5 tonnes, là où la moyenne des Français est de 10 tonnes. Est-ce qu'on pourrait imaginer un système de réduction d'impôts du fait que je pollue moins que les autres, que la moyenne française ? Est-ce qu'un tel modèle serait envisageable à l'échelle des citoyens ou à l'échelle des entreprises ?
Alors effectivement, Christophe Béchu ce matin n'a pas répondu de façon extraordinaire à cette question-là. Oui, en toute théorie, c'est possible. Alors attention quand même à l'effet gilet jaune qu'il peut y avoir si on cible les particuliers là-dessus sur une empreinte carbone, parce que en fait l'empreinte carbone de quelqu'un qui est à la campagne ou de quelqu'un qui est à Paris forcément ne sera pas la même. Donc c'est voilà, faut juste faire attention à l'équité de si on met en place un truc comme ça. Mais je vous invite à regarder les travaux d'une fondation qui s'appelle la Fondation 2019. Qui a travaillé sur la notion justement de TVA circulaire à l'époque. Un certain Romain Ferrari qui a monté ça. Alors 2019, pourquoi il appelait ça comme ça? Parce qu'il a dit en 1969, l'homme a posé le pied sur la Lune. 50 ans plus tard, en 2019, ce serait bien qu'il remette un peu les pieds sur Terre. Parce que c'est vrai qu'on marche un peu sur la tête quand même sur nos systèmes économiques et fiscaux. Et donc oui, il a prouvé pour le coup avec des thésards qui ont bossé là-dessus, qui ont fait vraiment un travail de fond pour le rendre concret et possible, que oui, moduler la fiscalité en fonction de profils environnementaux, c'est possible, ça marche et ce serait très très vertueux. Donc au niveau fiscal, oui, il faut absolument avancer là-dessus. Oui, quoi.
C'est une manière de donner des incitations plutôt que dire qu'on est dans la punition et on oblige à faire telle ou telle chose.
Ouais, oui, mais ça revient aussi à dire que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Oui, bien sûr, tout le monde a le droit, pourquoi pas, d'avoir un gros 4x4, sauf qu'à partir du moment où ça commence à tuer des gens, il faut peut-être aussi mettre des limites. Et le système économique doit responsabiliser à la juste valeur la façon dont les uns et les autres agissent.
Et l'exemple que tu prenais du fait de se déplacer plus en mobilité active, donc à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture, ça permettrait d'avoir des citoyens en meilleure santé, donc de réduire les dépenses de la sécurité sociale. Est-ce que ça veut dire que, de manière systématique, c'est le secteur public qui doit prendre en charge le financement de ces initiatives qui sont vertueuses pour tout le monde, ou bien le secteur privé peut aussi trouver un intérêt économique, parce que s'il n'y a pas d'incitation, il ne va pas y aller.
Le secteur privé peut trouver son incitation. La logique qui serait la bonne, que j'appelle de mes voeux, c'est de dire, à partir du moment où on a un projet d'économie sociale et solidaire, de transition écologique, qui va générer de la valeur pour quelqu'un d'autre, donc une externalité. Déjà, il faut à chaque fois essayer d'identifier cette externalité-là, donc cet impact positif. Il faut essayer de l'évaluer, de le chiffrer, puis après, il faut organiser un dialogue avec la personne qui en bénéficie, qu'elle soit publique ou privée. Hein. D'ailleurs, il y a un dispositif qui existe comme ça, sous forme un peu expérimentale, qui vient du monde anglo-saxon et qui a débarqué en France il y a quelques temps, c'est les contrats d'impact. Au contrat d'impact social au départ, ça a été élargi il y a quelques temps au volet environnemental. Le principe, et pour le coup, c'est le seul dispositif que j'ai identifié qui permet de répondre à cette question-là. Le principe, c'est vous avez un projet qui, par exemple, va ramener des gens vers l'emploi. Bon, vous avez besoin pour ça d'investir 500 000 euros. Donc vous allez emprunter à un banquier les 500 000 euros, et puis vous allez discuter avec France Travail maintenant, pour dire, voilà, à chaque fois que je ramène quelqu'un à l'emploi, est-ce que ça t'intéresse, toi? Ah oui, ça m'intéresse. À combien est-ce qu'on peut évaluer le niveau de ton intérêt? À 4000 euros. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une tierce personne qui sera là pour évaluer, pour être sûr que tout est bien carré. Mais à chaque fois que je ramènerai quelqu'un dans l'emploi, c'est pas moi qui vais rembourser l'emprunt, c'est toi. Ça, c'est un système qui existe, c'est possible. Donc, juridiquement, le cadre existe. Pour l'instant, c'est des expérimentations nationales qui sont un petit peu lourdes, un petit peu opaques. Moi, je milite vraiment pour qu'à l'échelon régional, on s'empare de ce truc-là. Et puis, on expérimente, on y va. On se met autour de la table avec les acteurs publics, les acteurs privés. Et on essaie de mettre en place la façon dont ce dialogue peut s'établir un peu systématiquement. Qu'on ne me fasse pas croire... Ok, c'est compliqué, hein, les impacts économiques, mais au moment où on parle d'intelligence artificielle, où on est capable de tout faire avec l'ordinateur, à un moment, essayons d'en faire au moins un truc intelligent dans l'analyse de ces impacts positifs et de la manière dont on peut rééquilibrer la façon dont on compte ce qui compte.
Et donc compter non pas seulement sur le volet financier, mais aussi social, humain, environnemental.
C'est ça.
En mettant en place des indicateurs.
Ça fait écho à tout ce qui se développe, tant bien que mal. Ça prend du temps aussi, hein, les notions de triple comptabilité ou de comptabilité étendue. Tous ces sujets-là qui sont évidemment très, 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 très structurants si on arrive à aller au bout. Et bon, c'est compliqué, ça prend du temps.
Ce qui est délicat, c'est que l'économie a pris, enfin l'économie financiarisée a pris énormément de place aujourd'hui dans nos sociétés. Donc c'est un objet qui peut faire un petit peu peur et en même temps, ça doit pas être au centre de nos vies. Et pourtant, on est un petit peu toujours tiraillé entre comment on va arriver à vivre, à financer ses projets. Donc on est toujours tiraillé par cette logique de modèle économique, de rentabilité. Et il faut le travailler aussi. Donc c'est pas évident, je trouve, de réfléchir à des questions où on prend à bras le corps le problème de le poids immense qu'a la finance aujourd'hui, et il faut aussi le remettre au service des gens, au service des citoyens, pour arriver à trouver des leviers, des manières de financer une transition, sachant que beaucoup de gens ne comprennent rien.
Ouais, mais à la fois, j'ai tendance à te dire... c'est compliqué, tout ça, mais le rôle de politique là-dedans, il faut quand même qu'on le re-questionne. C'est-à-dire, on considère... aujourd'hui, que finalement, l'économie mondialisée et financiarisée est au-dessus des États. C'est la réalité. Elle est effectivement au-dessus des... Mais est-ce que c'est obligatoire, ça ?
Non.
Voilà. La question, elle est un petit peu là. En 1789, on a coupé la tête à deux, trois personnes en disant « ça suffit maintenant, on a trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Ils sont trop cul et chemise tous ensemble, donc il faut qu'on sépare les pouvoirs. » Et c'était une très, très bonne idée, très bien. Eh bien, aujourd'hui, finalement, le pouvoir, il est économique, financier, il est médiatique et il est sur les informations, les GAFAM. Est-ce qu'on se pose la question de reséparer ces pouvoirs-là et de leur donner aussi un contrôle démocratique ? Est-ce que finalement, ce n'est pas aux politiques de dire ben, « oui, c'est vrai que le monde financier a pris beaucoup plus de place, mais finalement, je suis aussi élu pour faire que ça, ce soit une décision collective qui fasse qu'on en prenne moins ou qu'on regarde ça différemment, quoi. »
Je peux te proposer un petit exercice si tu le souhaites, où, parce qu'on aime bien se projeter dans le futur avec la forêt des possibles. À quoi ça ressemblerait le 2030 pour toi ou bien 2040, mais une sorte de projection dans le futur où on a réussi à amorcer en tout cas une transition écologique, notamment avec un volet financier, économique qui est au service de l'humain. Mais à quoi ressemblerait un petit peu ton monde idéal et ce pourquoi tu te bats ?
Je pense que ce monde idéal, il y a une des dimensions, c'est qu'on sera arrivé à faire de la démondialisation sélective. Je m'explique. Évidemment, on ne va pas dire qu'à l'échelle de chaque quartier de la ville de Marseille, il faut qu'on puisse fabriquer des avions. Évidemment, il y a des trucs comme ça qui doivent rester du ressort de l'économie mondialisée. Mais pour les tomates et les baguettes de pain, le fait de lancer des appels d'offres européens, je ne suis pas sûr que ce soit complètement nécessaire.
Est-ce que c'est le cas ?
Je grossis le trait, mais si tu es une collectivité locale que tu veux lancer un appel d'offres pour tes cantines qui dépasse un certain seuil, c'est forcément un appel d'offres européen. Et malheureusement, nos acheteurs publics, qui ne sont d'ailleurs pas tous super bien formés à tout ça, ils doivent un peu se creuser la tête pour mettre des critères de proximité. On n'a pas le droit à la proximité, ce n'est pas un critère. Donc il faut trouver d'autres façons d'exprimer tout ça pour favoriser en fait le local. Donc parce qu'on est, et la logique elle est pas déconnante au départ, hein. Spécialisation et échange, c'est là-dessus que s'est construit l'économie. Donc si tu es meilleur que moi pour aller chasser, tu vas chasser et puis moi je vais pêcher et après on s'échange nos trucs. Très bien, sauf que ce qu'on n'a jamais été capable de voir, c'est que quand sur la totalité des produits et services, notamment du blé, notamment de l'alimentation, on en arrive à des marchés mondialisés, ça veut dire qu'au niveau de chaque territoire, on a perdu de la résilience. Et ça, on ne l'a pas mesuré. Et ça doit rentrer d'une façon ou d'une autre dans le prix. Ça fait partie des externalités, pour le coup, négatives de nos systèmes. Donc, 2030, on est censé en prendre un petit peu le chemin. Enfin, après la crise Covid, on a dit, c'est bon, le Doliprane, on va peut-être le refaire en France. Au final, ça ne s'est pas fait et je ne sais pas trop où on en est de toutes les bonnes initiatives, de toutes les bonnes idées du monde d'après qu'on avait à l'époque. J'ai l'impression qu'on les a oubliées aussi vite qu'elles étaient venues. Mais si la question, c'est comment j'imagine 2030 où on aurait réussi cette transition, je pense qu'il y a cette dimension-là qui est de dire il faut relocaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas la sacro-sainte concurrence qui est le fin maître de tout ça. Non, ça doit être plutôt la résilience territoriale que la saine concurrence qui doit être l'objectif après lequel on court. Cette notion-là, elle est importante. Hein. Quel est l'indicateur après lequel on court ?
Et comment...
Le PIB, qui est, d'après Patrick Véveret, j'adore cette expression, un thermomètre qui rend malade, il mesure un truc qui n'est pas le bon. Ce qu'on devrait mesurer, c'est quelque part notre résilience territoriale.
Et comment est-ce qu'on évalue le juste milieu là-dedans ? Entre la résilience, la démantélisation sélective, en disant que, par exemple, pour ce qui concerne la production d'énergie à l'échelle de 66 millions de Français, évidemment qu'on ne va pas mettre des petits réacteurs ou des productions énergétiques sur tous les toits, etc., parce que ça ne serait pas à la hauteur des échelles de, où se trouvent les enjeux. Qu'est-ce qu'on dit ? Là, il faut être plus résilient. Là, on garde des industries sélectives de pointe. Comment est-ce qu'on tranche ?
Alors là, pour le coup, si j'étais capable de rentrer dans le détail de la réponse que je vais te faire, je serais bien, bien heureux, parce que je serais plus intelligent que je ne le suis, malheureusement. Je pense quand même que, derrière ta question, on se demande de deux mots lequel choisir. D'accord ? C'est un peu ça. Est-ce qu'à un moment, il faut arbitrer plus pour l'économie, donc quelque part l'emploi ? Il y a quand même une dimension très, très positive dans l'économie et dans l'emploi. Ou le sujet environnemental, ou le sujet résilience territoriale. Je crois que dans tous ces sujets-là, il faut laisser la place au monde scientifique pour, un petit peu en temps réel, nous dire non, en ce moment, priorité au gaz à effet de serre, pollution en deuxième niveau. Et puis peut-être qu'à un autre moment ou sur un autre territoire, les mêmes scientifiques diront priorité à la pollution, gaz à effet de serre, on verra plus tard. Ça devrait être du ressort du scientifique, en tout cas dans la logique, pour faire ces arbitrages-là.
En tout cas, ce que je retiens de ta vision d'un monde dans lequel on aurait réussi une transition, c'est des mots comme relocalisation, coopération et des valeurs de cet ordre-là.
Oui, c'est ça. Et derrière ça, qu'on sache après quoi on court. Et savoir après quoi on court, franchement, c'est loin d'être anodin. On est dans une situation aujourd'hui, me semble-t-il, où avec la technologie, avec les systèmes d'information, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, on peut partir à peu près n'importe où. Et finalement, collectivement, comme on ne décide pas, collectivement, on va vers le plus facile. Celui qui est sur nos bas instincts, etc., etc. Il faut un moment qu'on reprenne un petit peu la main là-dessus et que collectivement on décide d'où on veut aller, parce que, encore une fois, le champ des possibles, il est très très large. Pour faire court, est-ce qu'on veut que l'humanité aille sur Mars, ou est-ce qu'on veut que l'humanité aille sur la bio-ingénierie? Voilà. Oui. Mais si on ne décide pas, on va aller dans des directions qu'on risque très 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 fort de regretter. Donc arrêtons de courir après cet indicateur qui est le PIB, essayons de nous demander ce qu'on veut. Et une fois qu'on sait où on veut aller, c'est beaucoup plus facile. J'ai l'impression qu'on est comme un bateau dans la tempête. On passe tout notre temps à se demander si on a un bon moteur, un bon gouvernail, mais on ne sait pas où est le port.
Et je pense que c'est une très bonne conclusion. Vient le moment de terminer l'émission. En tout cas, merci beaucoup Gwenaëlle Carvajan d'avoir participé. C'était très, très intéressant.
Merci à vous trois.
Merci
Claire et Marin. Et puis j'espère que vous avez pris du plaisir aussi et que vous avez compris ce que c'était l'économie de la fonctionnalité. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci.
Bonne soirée.
À bientôt.